Je vous invite ce matin à ouvrir nos Bibles dans le dernier livre de l'Ancien Testament, selon nos versions, plutôt selon notre organisation, puisque dans la Bible juive, ce n'est pas le dernier livre, puisqu'il se finit sur la Bible juive se finit sur le livre des Chroniques, mais nous, il se finit sur le livre du prophète Malachie, donc au chapitre 1er, et je lirai le verset 2. Malachie, chapitre 1, verset 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, mais en quoi nous as-tu aimé? Ésaïe n'était pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Avant de partir en congé fin juin, j'ai vraiment eu sur mon cœur le désir de parler avec vous d'Israël. Et évidemment, les événements qui se produisent depuis quelques semaines ont fait que confirmer cette pensée. Et comme nous en avons aussi échangé avec M. Boulagnon, nous sommes un peu répartis la tâche, puisque aujourd'hui je vais aborder un peu les relations entre Israël et l'Église, et puis ce qu'est Israël aujourd'hui. Et lui poursuivra la semaine prochaine sur un sujet qu'il connaît bien, et qu'il enseigne toujours avec ses excellences, c'est la place d'Israël dans l'histoire, avec un grand H, et dans cette histoire qui est devant nous. Donc, comme ça, vous aurez, Dieu voulant, un aperçu complet. Mon but ce matin n'est pas de faire une étude poussée, de vous me présenter à vous comme un spécialiste, M. Boulagnon l'est beaucoup plus que moi, mais je l'aborde ici dans un enseignement général, sachant qu'au milieu de nous, certains maîtrisent parfaitement le sujet et sont capables de pouvoir apporter de nombreux textes prophétiques. Mon but n'est pas de vous assommer avec des textes, mais pas simplement non plus de poser quelques fondements, mais essayer de voir ce que la Bible nous donne comme message essentiel concernant Israël et concernant l'Église. L'idée de ce message et de ces deux messages, en quelque sorte, celui qui viendra la semaine prochaine aussi, ont encore résonné dans mon cœur et ont été confirmés par les tragiques événements, non seulement ceux qui se déroulent en Israël, et puis ceux qui se sont déroulés dans notre rue. Ce qui s'est passé le 13 juillet, dimanche soir, vers 16-17 heures, est absolument une tragédie pour ce pays. Une honte de voir ces foules qui, emportées par un esprit de haine, de violence, ont traversé cette rue et sont allées caillasser la synagogue qui est un peu plus loin dans notre rue. Nous savons que ça a été des moments malheureux, très très malheureux et honteux, qui nous amènent encore plus à devoir partager les choses que nous partageons. Ce qui se passe en Israël, et en même temps, je ne peux pas oublier, nous ne pouvons pas oublier ce qui se passe un peu plus loin, dans ces pays qui sont aussi des pays de la Bible, qui se passe en Syrie, qui se passe en Irak. Et quand on pense au peuple juif, on pense aussi à ces chrétiens et aux autres minorités, aux souffrances qui sont les leurs aujourd'hui et qui témoignent de ce que nous sommes vraiment dans des temps avancés. Et la première chose que je dirais, c'est que les uns comme les autres, qu'ils soient juifs dans la diaspora juive en Israël, qu'ils soient chrétiens en Orient, aux musulmans ont tous besoin de Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose que nous devons dire. Parce qu'il ne suffit pas de porter une tradition, une religion. Il ne suffit pas même de porter un certain nom pour être en paix avec Dieu. Mais nos cœurs sont touchés par tout ce qui se passe. Et il ne s'agit pas de dresser un peuple contre un autre. Et il nous s'agit de nous rappeler premièrement que Jésus dit aux Juifs qui l'écoutaient, comme à nous, ses disciples, par la foi, d'aimer nos ennemis, même lorsque les choses nous paraissent très difficiles. Mais ce ne sont pas simplement des hommes, quels qu'ils soient, même dans leur violence, que nous regardons. Parce que nous savons que ces choses, avant même d'être humaines, sont spirituelles. Et que la violence qui est manifestée là-bas est une violence qui est attisée par le spirituel. Et Satan s'en donne à cœur joie de libérer sa haine, sa violence contre les uns et contre les autres. Et ce qui se passe là-bas trouve tellement d'écho dans la parole de Dieu. Quand la Bible, les prophètes nous parlent de l'Assyrien, le méchant qui se lèvera, quand elle nous parle de ces hommes violents, nous les voyons devant nous, nous les voyons là. Et nous disons, Seigneur, viens bientôt. Mais nous voulons aussi prier pour les peuples. Nous voulons prier pour le juif, nous voulons prier pour le chrétien, nous voulons prier pour le musulman, nous voulons prier pour toutes les minorités, quelles qu'elles soient, pour que Jésus puisse transformer leur vie. Il est le Seigneur de la paix. Je parlerai donc plus particulièrement ce matin d'Israël, et si je dois résumer Israël en trois choses, premièrement, je dirais Israël, c'est le peuple de la parole. C'est le peuple qui a reçu la parole. C'est ce que Paul écrit dans Romains chapitre 9, il a reçu les oracles. Il a reçu la parole du Seigneur. Il est le gardien de la parole, de cette parole des prophètes, cette parole de la loi que Dieu lui a confiée. Israël, c'est aussi le peuple de l'Alliance. Et vous trouverez peut-être surprenant ce que je vais vous dire, mais Dieu n'a conclu d'alliance qu'avec Israël. Même la nouvelle alliance a été conclue avec Israël. Jérémie l'explique très bien. Mais c'est à cause de l'incrédulité d'Israël que les nations ont pu rentrer dans cette alliance que Dieu avait conclue avec Israël. Israël est le peuple avec qui Dieu traite alliance. Et puis Israël, c'est aussi l'Israël des patriarches. Mais quand je parle aux patriarches, quand je parle des patriarches, je me projette comme les patriarches le faisaient eux-mêmes, je me projette dans la promesse. Parce qu'Israël, c'est le peuple de la promesse. C'est le peuple qui a porté la promesse. C'est le peuple qui a engendré la promesse. Et la promesse, c'est Jésus. Et c'est ainsi que nous pourrions résumer Israël. Et peut-être que la façon la plus simple encore, c'est d'entendre la parole du Seigneur. Israël est le peuple aimé de Dieu. Dieu le dit lui-même dans le Deutéronome, c'est pas qu'Israël soit meilleur que les autres. Un peuple avec un cou roide. Alors nous n'allons pas idéaliser Israël. Mais Dieu l'aime. Dieu l'aime. Dieu s'est choisi ce peuple parmi tous les peuples. Et l'amour de Dieu ne change pas. Et l'incrédulité de quelques-uns ne fait pas fléchir la fidélité de Dieu. Alors nous allons donc parler d'Israël tout d'abord. Et quand j'ai abordé ce message, je me suis dit, mais au fait, quel Israël? Parce que si nous nous interrogeons les uns les autres, nous verrions que nous aurions peut-être plusieurs réponses à apporter concernant Israël. Israël, c'est peut-être plusieurs Israël. Celui que nous connaissons tous, c'est l'Israël de la Bible. L'Israël du passé. L'Israël avec lequel nous sommes le plus en contact. Étant né dans un foyer chrétien, j'ai grandi avec Israël. Je connais peut-être plus les histoires de l'ancien Israël que même l'histoire de France. Abraham, Moïse, Samson, David. Et même ceux après du Nouveau Testament ont peuplé notre enfance. Depuis que nous sommes petits, nous avons commencé à lire même dans les livres de la Bible, en images, etc. Nous avons même appris à lire, peut-être pour certains, dans l'histoire d'Israël. Et elle fait partie de notre culture, et c'est comme si c'était quelque chose qui nous appartient à nous aussi. L'Israël biblique, c'est l'Israël du passé, mais c'est aussi l'Israël de l'avenir. De cet avenir qui a déjà commencé, depuis plus d'un siècle maintenant. L'Israël eschatologique. Et celui-là, nous avons appris à le découvrir. Et Dieu a levé des enseignants dans nos églises pour nous sensibiliser à ça. Je pense au pasteur Lecossec. Tous les petits livres qu'il a pu écrire, qui ont éveillé nos pensées, nos consciences, notre intelligence, notre sensibilité quand à l'histoire d'Israël dans les temps présents et dans les temps à venir. Et la semaine prochaine, M. Boulagnon y reviendra donc avec toute l'expérience et la connaissance qui est la sienne. Il y a donc l'Israël de la Bible. Mais l'Israël de la Bible, ce n'est pas tout Israël. Il y a l'Israël du peuple juif. J'ai même écrit des peuples juifs. Mais à me dire, qu'est-ce qu'il raconte le pasteur ? Oui, je dis des peuples juifs parce que les juifs sont vraiment divers. Ashkenaz, séfarades, orthodoxes, libéraux, de telle culture, de tel pays. Depuis les juifs de la diaspora indienne jusqu'aux juifs américains ou dentistes à Toronto au Canada, il y a un monde. Et ce peuple est là dans sa diversité et nous les voyons autour de nous. Mais cet Israël des juifs, c'est à la fois l'Israël des Israéliens. Et c'est celui aussi des juifs que nous côtoyons chaque jour. Ceux de la diaspora, ceux du quartier de la Roquette. L'Israël du peuple juif, c'est un Israël qui est marqué par la bénédiction de Dieu. C'est un peuple avec une réussite disproportionnée par rapport à tous les autres peuples. Même les Américains n'arrivent pas à leur cheville en termes de récompense, en termes dans le domaine des affaires, oui, ça on le sait. De la science, alors là, on est époustouflé. Et des arts aussi, ne l'oublions pas, de nombreux artistes, qu'ils soient écrivains, musiciens, peintres, sculpteurs, sont juifs. Et nous sommes étonnés de découvrir, ah, un tel aussi est juif. La richesse. Heureusement, il y a un domaine dans lequel ils sont un peu moins forts. Ils en laissent un peu aux autres, c'est le sport. C'est gentil de leur part quand même d'en laisser. Mais quand on parle du peuple juif, forcément, c'est à ce niveau que se situe la question de l'antisémitisme. Et nous ne pouvons ignorer les souffrances nombreuses et trop souvent répétées. Et ces souffrances ne s'arrêtent pas simplement aux crimes les plus atroces, que ce soit les pogroms ou la Shoah, mais ces souffrances commencent par les incivilités, les provocations, la méchanceté gratuite et banale et quotidienne que beaucoup subissent. Et l'antisémitisme, c'est aussi une manifestation du racisme que d'autres peuples subissent aussi. Mais l'antisémitisme a ceci de particulier, qu'il est une offense aussi directe à l'égard de Dieu. Je le dis, nous avons été choqués des événements qui se sont produits dans la rue de la Roquette, et vous avez peut-être vu certaines vidéos sur YouTube, sur Facebook ou ailleurs, et je dis bien sur Facebook ou YouTube parce que généralement c'est là qu'il y a le plus d'images prises sur le vif que sur les chaînes de télévision où les images sont retraitées et conditionnées. Mais certains ont pu filmer les choses telles qu'elles étaient depuis leur balcon dans la rue et les ont postées, et vraiment c'était terrible ce qui a été dit, ce qui a été fait. Maintenant peut-être que certaines réactions aussi de groupes extrémistes juifs n'ont pas été à la hauteur, mais les choses ont été ainsi. Donc il y a l'Israël biblique, l'Israël du peuple juif, et puis il y a l'Israël, l'État moderne, l'État d'Israël. L'État d'Israël qui est là depuis bientôt 70 ans, oui, mais en tout cas 60, plus de 65 ans. L'État d'Israël, c'est des images toujours impressionnantes, des images qui sont là de violence, de guerre, mais Israël ne se résume pas à ça, et vous verrez si vous allez en Israël. Mais je dis encore une fois, attention aux mises en scène, attention à la propagande savamment orchestrée et infusée auprès de médias assoiffés d'images spectaculaires. Comprendre la situation en Israël et dans les territoires nécessite du recul. Que les flashs d'informations dans des chaînes d'infos en continu ne peuvent pas nous donner. Il faut prendre du recul et comprendre ce que sont les choses. L'État moderne d'Israël est né du sionisme. Théodore Herzl, congrès de Bâle en 1895 ou 17, je ne sais plus exactement. C'est vrai qu'il est né du sionisme, et puis ensuite la déclaration Balfour, etc., après la guerre. Mais je vais vous dire, Israël n'est pas né de la volonté des hommes. Israël est né de la volonté de Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et Dieu a fait renaître en quelque sorte ce pays, cette nation. La nation existait, bien qu'elle était séparée, éclatée, mais dans le but de l'accomplissement de toutes les Écritures. La vocation de l'État d'Israël, moderne, c'est l'accomplissement des Écritures, comme ça l'était par le passé. Maintenant, laissez-moi vous dire que cet État d'Israël n'est pas le royaume de Dieu sur terre. Car il lui manque l'essentiel, et je sais que M. Boulagnon le développera la semaine prochaine, donc je ne vais pas m'y arrêter, mais il lui manque l'essentiel. Qu'est-ce qui lui manque? Le souffle de Dieu. Oh, il a la forme, mais il lui manque l'essentiel. Il n'empêche qu'Israël est une démocratie remarquable, surtout dans l'environnement géopolitique et spirituel dans lequel il se situe. Et c'est une démocratie même par rapport à nos propres nations occidentales. Israël a été capable de faire face aux scandales qui ont touché le plus haut sommet de son État. Il n'y a pas longtemps, un président a été jugé. Un premier ministre aussi a été jugé pour des affaires, l'un pour des affaires de mœurs et l'autre pour des affaires de corruption. Et Israël est capable de faire face à cela. Mais c'est pour dire aussi que l'État d'Israël est un État gangréné aussi par le péché. Et dans beaucoup de choses, il ressemble aussi aux nations. C'est un pays qui souffre de corruption, c'est un pays qui souffre de fractures sociales. La pauvreté est présente en Israël. Mais il n'empêche que l'État d'Israël est un moyen par lequel Dieu met en place des événements qui conduiront au temps de la fin. Et l'État d'Israël est au bénéfice de la providence divine et de ses interventions miraculeuses dans sa préservation. Israël ne subsiste dans cet environnement profondément instable que par la volonté de Dieu. Et non pas par ses chars, et non pas par ses avions. D'ailleurs, les prophètes eux-mêmes disent qu'un jour Dieu lui-même va détruire les chars d'Israël pour l'apprendre à s'appuyer non pas sur ses chars et non pas sur ses avions et ses missiles, mais sur Dieu lui-même. Et puis, il y a l'Israël du judaïsme. C'est un Israël aussi. C'est certainement l'Israël que nous connaissons le moins et c'est peut-être aussi l'Israël le plus complexe que l'Israël du judaïsme. Le judaïsme, c'est à la fois une démonstration de foi. Et notamment de deux choses que nous devons retenir, l'attachement indéfectible à la parole de Dieu. Le judaïsme a conservé la parole de Dieu, a transmis la parole de Dieu. Et puis l'attente messianique. Et sur ces deux points, beaucoup de juifs nous dépassent. Dans l'amour des Écritures, dans l'étude des Écritures, comme dans l'attente de la réalisation de la promesse messianique. Israël est donc à la fois une foi, je parle du judaïsme, mais c'est aussi une religion. C'est une religion constituée de toutes sortes de commandements, de traditions, de commentaires, d'interdits, de légendes, de généalogies. Et déjà Paul nous mettait en garde par rapport à cela. Et le judaïsme est très complexe. Et Jésus lui-même fait déjà la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne sont que des commandements d'hommes. Dans sa foi, le judaïsme est beau, mais dans ses traditions, il est inutile et vain. Et je vais vous dire, chaque fois que j'écoute, ça m'arrive de temps en temps, tel ou tel rabbin, que ce soit, par exemple, j'écoutais encore cette semaine, comme beaucoup le font, je sais, le Rav Ron Chaya, au sujet du 9 du mois d'Av. Hein. Je l'entendais parler de l'amour de Dieu. Je me disais, mais Seigneur, vraiment, chaque fois que je les entends, j'entends aussi la parole de Paul dans 2 Corinthiens 3 qui dit qu'un voile est jeté sur leur cœur. Ils sont capables de vous parler de Dieu d'une manière extraordinaire, mais ils n'arrivent pas à comprendre, à vivre pleinement leur foi parce qu'il leur manque l'essentiel. Il leur manque la connaissance de Jésus. Ils sont là, si proches. Et pourtant, il y a un voile. Il y a un voile devant leurs yeux. Ah, Seigneur, que c'est merveilleux chaque fois que le voile d'incrédulité tombe devant un juif. Et que comme l'apôtre Paul, il y a cette révélation du Fils de Dieu. Et c'est vrai qu'alors que tout ce qui est en lui, tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a vécu, prend une autre dimension et le juif alors rentre dans son accomplissement, dans son perfectionnement, parce qu'il ne peut être accompli qu'en Jésus. Ce ne sont pas les lois, ce ne sont pas les traditions, ce ne sont pas les coutumes qui vont l'accomplir au juif. C'est Jésus, son Messie, qui va l'accomplir et qui va donner un sens à toute sa foi, qui va même donner un sens, je le dis, à toutes ses souffrances en tant que juif. Et alors il est heureux et nous sommes heureux. Quant au peuple d'Israël, vient le temps difficile, très difficile, où Dieu ramènera tout Israël à lui et mettra son esprit en lui. Mais nous le savons, ce sera vraiment dans des temps fâcheux. Et un jour, ils verront leur Messie, celui qu'ils ont rejeté, mais qui portait leur nom gravé dans ses pommes pour toujours, Jésus. Et l'Église de Jésus-Christ doit se réjouir et se réjouira de ce que le peuple d'Israël aura trouvé son Messie. Voilà pour quelques Israël. L'Israël de la Bible, l'Israël des Juifs, l'État d'Israël, l'Israël du judaïsme. J'aurais pu rajouter la terre d'Israël, mais je ne vais pas faire encore d'autres choses. Nous devons avancer dans ce message. Mais maintenant, je voudrais parler d'un autre Israël. L'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu. Et le premier mot qui doit venir, c'est celui d'élection. Israël est un peuple à part. Dieu a choisi Israël. Je disais, ce n'est pas parce qu'ils étaient meilleurs. Il le dit lui-même. Pas parce qu'ils étaient plus justes. Mais c'est là le fait de Dieu. Psaume 135, verset 4. L'Éternel s'est choisi Jacob pour qu'il lui appartienne. Ce n'était pas le peuple le plus fort, ce n'était pas le peuple le plus grand, c'est le peuple. Parfois même Dieu lit le peuple plus petit, mais Dieu se les choisit. Il y a un acte de volonté divine, il y a un choix divin, mais à ce choix divin a répondu la foi d'un homme, Abraham, père de tous les juifs, mais surtout père de tous les croyants, dans le Messie, qu'il soit juif ou non juif. Et ce choix de Dieu, cette élection de Dieu à l'égard d'Israël, est accompagné de dons. Je le citais tout à l'heure en introduction, Romains 9, 4. Paul dit que les alliances, la loi, donc la parole, les oracles, la loi, les prophètes, ont été donnés à Israël. Pas à notre peuple. À Israël. Seul Israël a reçu les alliances de Dieu. Seul Israël a reçu la parole de Dieu. Autre don très important, la terre d'Israël. Genèse 17, 8 et bien d'autres versets encore où Dieu rappelle la promesse à l'égard d'Abraham et de ses descendants. Il lui dit, je te donnerai à toi et à ta descendance, rappelle-toi, comme propriété perpétuelle, le pays où tu séjournes en immigré, tout Canaan, et je serai leur Dieu. La terre d'Israël est le don de Dieu à ce peuple. Et puis par-dessus tout, cette élection est accompagnée de la promesse messianique. Elle est accompagnée de la promesse de ce sauveur qui doit venir, de cette étoile qui doit manquer, de cet as qui doit monter là, du sein de Jacob, Jésus notre Seigneur. Mais l'élection est aussi accompagnée d'une exigence d'exclusivité. Et cette élection implique fidélité et obéissance d'Israël sous peine de jugement. Dieu ne tolère pas d'incartade à l'égard de sa sainteté. Cette élection est aussi une vocation. C'est très important. Parce que malheureusement, trop souvent, les Juifs ont l'impression que cette élection, c'est une fin en soi. Mais cette élection, c'est une mission. Cette élection, c'est une mission. Ésaïe le confirme. Israël doit être la lumière des nations. Et Jésus le dit dans Jean 4, le salut ne vient que des Juifs, il vient des Juifs. Malheureusement, Israël a failli à la fois dans cette exclusivité à l'égard de Dieu, à travers l'idolâtrie, et a été jugé à cause de cela. Et Israël aussi a failli dans sa vocation, en rejetant Jésus, Alors, quelle est la situation d'Israël aujourd'hui? Je ne pourrai pas le lire en entier, mais je vous invite à reprendre ce texte. Vous pouvez déjà le prendre sous vos yeux, en tout cas, Romains chapitre 11. On connaît bien ce passage pour ceux qui aiment Israël et qui aiment les Écritures. Romains 11, verset 11 à 24. C'est l'image de l'olivier, l'olivier franc. Paul compare Israël à un olivier franc, avec ses racines et ses branches. Il parle aussi d'un olivier sauvage. La différence entre l'un et l'autre, c'est que l'un est travaillé. L'olivier franc est travaillé par la main de son propriétaire. L'olivier sauvage, il pousse dru et il ne donne pas les fruits que l'on espère. Quand il parle de l'olivier franc, il fait la distinction entre les racines et les branches. Les racines, c'est l'élection d'Israël et la foi d'Israël. Parce que les racines puissent à la fois puissent leur ressource dans la promesse de Dieu, dans l'appel de Dieu, mais dans la foi d'Abraham aussi. Et puis il y a les branches. Les branches franches, les branches naturelles. Et les branches naturelles, ce sont les Juifs qu'Abraham a apportés. Et Paul fait aussi mention de branches sauvages. Et les branches sauvages, ce sont les disciples des nations. Nous sommes ces branches d'une nature sauvage, jusqu'à ce que la main de Dieu vienne sur nous. Et dans ce passage, Paul développe la doctrine du rejet d'Israël. Mais permettez-moi d'ajouter deux adjectifs très importants. Il parle du rejet partiel et du rejet temporaire d'Israël à cause de son incrédulité. Je dis partiel, verset 17, vous le voyez bien, il dit « quelques-unes des branches ont été retranchées ». Non pas tout Israël a été retranché, mais quelques-unes des branches ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et nous ne devons jamais oublier que les premières branches de l'Église sont juives. Les apôtres étaient juifs. Et la plupart des livres du Nouveau Testament sont des livres juifs. Mis à part Luc. Et les premiers disciples, que ce soit ceux de Jérusalem ou de la Pentecôte, étaient aussi juifs pour la plupart, sinon prosélytes. Alors réjouissons-nous pour toutes les branches juives qui demeurent greffées à la racine, portées par la racine, et réjouissons-nous pour toutes les branches juives qui s'attachent à Jésus-Christ. Elles témoignent de la fidélité de Dieu. Donc un rejet partiel et puis un rejet temporaire. Paul le dit bien dans Romains 11, 26, « Vient le temps de la restauration finale, tout Israël sera sauvé. » Même les prophètes nous le disent ici à travers des temps douloureux. Les prophètes, notamment Jérémie, parlent de l'angoisse de Jacob. Maintenant, question 4, vient-il des branches qui ont été retranchées? Des branches qui ont été rejetées? Ces branches ne perdent pas leur nature. Elles ne perdent pas ce qu'elles sont. C'est dans leur ADN, je veux dire. Elles restent juives. Mais c'est vrai que certains sont comme mortes. Paul le dit dans Romains 9, 6, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et malheureusement, des juifs qui n'en ont que le nom et la circoncision et peut-être les traditions vivent comme des païens et sans Dieu. Mais M. Boulagnon me dit souvent avec vérité qu'il suffit de gratter un petit peu l'écorce pour découvrir qu'il y a encore quelque chose. Et peut-être que face à la mort, à la maladie, le Shema Israël reviendra et que de nouveau la prière montera vers Dieu. Parce que quelque chose a été quand même placé dans leur cœur. Mais je crois que beaucoup des branches d'Israël qui ont été retranchées sont un peu comme la verge d'Aaron. Pardonnez-moi cette image un peu osée. Mais vous vous rappelez la verge d'Aaron ? Comment pouvait-elle fleurir? Comment pouvait-elle porter du fruit? Elle était coupée de la racine. Mais la providence de Dieu était là. Et je crois que beaucoup de ces branches rejetées d'Israël sont un peu comme cela. Elles sont comme gardées en vie par Dieu. C'est un peu l'Israël zélé pour Dieu. Je reprends l'expression de Paul dans Romains 10, 2. Séparés de la racine, attention, séparés de la racine pour cause d'incrédulité, mais comme maintenus dans une espèce de vie par la grâce de Dieu à cause de son élection. Mais laissez-moi vous dire ceci, dans tous les cas, les branches d'Israël séparées de la racine demeurent loin de Dieu. Demeurent loin de Dieu. Et ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et d'ailleurs même de nombreux rabbins, et on peut que s'en réjouir, prêchent aujourd'hui la repentance envers Dieu. Tchouva, faites demi-tour. Parce qu'ils se rendent compte que le peuple juif s'est éloigné de Dieu. Et d'ailleurs, Ézéchiel 38-39 parle très bien, avant de reconnaître Jésus comme leur Messie, Israël doit d'abord retourner vers Dieu. Il doit revenir vers son Seigneur, et ils en ont besoin. Mais je voudrais vous dire aussi que toutes les branches d'Israël, toutes celles qui ont été séparées de la racine pour incrédulité, ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. L'Évangile est pour le juif, proton, premièrement, parce qu'il n'y a pas deux voies de salut. Une pour les gens des nations et une qui serait spécifique aux juifs. Il n'y a qu'un moyen pour le juif comme pour le non-juif d'être porté par la racine et de participer à la sève, c'est-à-dire la bénédiction, c'est la foi en Jésus, Messie d'Israël et Sauveur donné par Dieu aux hommes. Mais ce qui est clair, c'est que nous refusons de nous associer à ceux qui oseraient contester l'élection d'Israël sur la base de ce rejet partiel et temporaire. Dieu ne se renie pas et Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Et l'élection d'Israël demeure. Alors maintenant, quelle est la relation donc entre l'Église et Israël? Ce rejet partiel et temporaire d'Israël donne accès au salut au peuple des nations. Nous en sommes les témoins. Et à cause de leur foi, et même si ce n'était pas leur nature propre, des branches des nations sont greffées sur l'olivier franc. Non pas en remplacement d'Israël. Mais j'aime bien cette traduction de la nouvelle Bible seconde, me semble-t-il, ou Bible seconde 21, mais parmi les branches restantes. Parmi les branches restantes d'Israël, nous avons trouvé place. Mais je voudrais vous dire ceci, réalisez-le, c'est très important. Où sommes-nous greffés? Nous sommes greffés, Paul le dit, sur la racine et non pas sur la branche. Et je crois que ça, beaucoup ont besoin de comprendre. Certains vont estimer qu'ils doivent finalement devenir semblables à Israël. Mais c'est parce que Dieu nous demande. Il ne nous greffe pas, il ne nous greffe ni sur la branche du judaïsme qui a été retranchée, ni même sur les branches des juifs qui demeurent fidèles au Seigneur. Il nous branche, il nous greffe sur la racine. Et qu'est-ce que la racine? C'est la promesse de Dieu. Et c'est la foi d'Abraham. C'est elle qui nous porte. Ce n'est pas la branche qui nous porte. Parce que la branche franche a besoin, elle aussi, d'être portée par la racine. Mais Dieu nous a portés, nous a greffés, pardon, sur la racine. Alors, je le dis, nous n'avons pas à judaïser pour devenir parfaitement disciples de Jésus-Christ. Nous n'avons pas à judaïser pour devenir enfants d'Abraham selon la promesse et la foi. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons simplement besoin de garder un cœur vivant l'évangile de Jésus-Christ. Mais Paul dit maintenant de cette greffe qu'elle est l'enrichissement des païens. En effet, greffée sur la racine, nous avons part à la sève qui monte de la racine, à la vie qui monte de la racine. Qu'est-ce que cette sève, sinon les promesses présentes et à venir? Nous n'y avons pas droit, disait Paul. Dans Éphésiens, nous étions sans droit de cité, de citoyenneté. Nous n'étions pas participants des promesses. Mais par la grâce de Dieu, nous avons été greffés sur la racine et maintenant sa sève monte en nous. Malheureusement, cet enrichissement semble avoir tourné la tête à plusieurs. au point que certains se sont enorgueillis vis-à-vis de ceux qui ont été retranchés pour incrédulité. Au point même qu'ils pensent que ceux-là sont les seules branches acceptées par Dieu. Et ils pensent même, certains, qu'ils sont devenus l'olivier franc à part entière. Les branches greffées seraient devenues quelque part la racine elle-même. Rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux. L'Église n'a pas remplacé Israël dans le cœur de Dieu. N'a pas remplacé Israël dans l'élection de Dieu. Mais l'Église a part à la bénédiction d'Israël dans la racine de l'appel de Dieu et de l'amour de Dieu. Et certainement en redécouvrant ses racines hébraïques, je dis bien hébraïques, et non pas la branche du judaïsme, mais en retrouvant ses racines bibliques à la lumière de l'héritage de la foi d'Israël, certainement à travers les langues, les coutumes, la terre d'Israël nous enseigne tellement. N'est-ce pas? Pour tous ceux qui sont allés en Israël. C'est un livre ouvert. Elle donne une lumière sur la parole de Dieu. Et à travers ses racines hébraïques, l'Église s'enrichit. Et elle grandit. Et elle apprend à aimer Israël, tout Israël. Celui qui demeure sur la racine, comme celui qui a été rejeté partiellement et temporairement. Alors mon dernier point maintenant, c'est de parler du projet de Dieu. Le projet de Dieu, il est simple. C'est un seul peuple avec une nouvelle humanité. Nous venons de dire que le rejet partiel et temporaire d'Israël donne accès au salut aux nations. Mais est-ce à dire que le projet de Dieu est simplement d'entretenir des branches des nations greffées sur l'olivier franc aux côtés de celles naturelles qui ont été préservées? Autrement dit, est-ce que Dieu se satisfait d'avoir deux peuples? Dieu aurait-il deux peuples? Certainement pas. Et c'est là qu'intervient la révélation du mystère de l'Église, comme Paul le mentionne dans Éphésiens 2:6. Il écrit ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Co-héritiers de qui? De Jésus. Et co-héritiers au même rang que les juifs croyants. Et ils forment un même corps avec les juifs croyants. Ça c'est entre parenthèses. Ils participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. L'Église n'est pas le rassemblement des non-juifs qui ont cru à côté de l'Israël rester fidèle à Dieu. Ça, c'est des choses que j'ai lues. Et pour moi, je les rejette. Je rejette cette idée de dire que l'Église, c'est les nations. Et il y aurait à côté l'Israël. Non. L'Église, c'est le rassemblement de tous ceux qui croient en Jésus, du juif premièrement, puis du non-juif. Dieu n'a pas de peuple, il n'en a qu'un. Et c'est confirmé par les Écritures qui disent bien qu'en Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule postérité. Si vous avez le temps de regarder, lisez aussi Éphésiens chapitre 2, c'est un passage magnifique. Et dans ce chapitre, Paul joue avec vous et nous. Et quand il parle de vous, il parle des païens, ceux d'origine païenne. Et puis, il dit nous, parlant au début des Juifs. Et puis ensuite, il parle à nous, nous ensemble. Quand il dit que Dieu nous a ressuscités ensemble, quand il dit que Dieu nous a fait asseoir ensemble, il parle à la fois de ceux des nations comme des juifs. Et ce que nous voulons vivre, c'est pas vous et nous, c'est nous ensemble. Ça, c'est le projet de Dieu. Éphésiens chapitre 2, c'est le chapitre du mur renversé. Paul fait allusion au temple, j'ai déjà enseigné sur ça. Vous savez que la cour intérieure du temple était réservée aux juifs, aux seuls juifs. D'ailleurs, même les femmes ne pouvaient pas y accéder. Mais, femmes juives, mais c'était réservé aux hommes juifs. Et il y avait une inscription sur le mur, enfin, Joseph le dit bien, danger de mort. Je ne sais plus comment il le dit. Enfin, peine de mort pour tous ceux qui ne sont pas juifs et qui iraient au-delà. Il y avait donc un mur de séparation. Les hommes des nations ne pouvaient pas aller, et même les femmes juives, ne pouvait pas aller au-delà de ce mur. Il y a quelque chose qui m'étonne, mais ça nous montre la grandeur de Dieu. C'est qu'entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un voile. Il n'y avait qu'un voile. Dieu ne bâtit jamais de mur entre lui et les hommes, mais c'est les hommes qui construisent des murs entre eux. Vous imaginez le gouffre du péché, simplement symbolisé par un voile. Et finalement, oui, quels sont les Juifs, les nations, mais nous sommes des hommes. Mais il y avait cette séparation symbolisée par ce mur hermétique. Et ce que Dieu nous montre dans... Ce que l'apôtre Paul, pardon, nous montre dans Éphésiens 2, c'est non seulement, bien sûr, le voile a été déchiré, mais le mur a été renversé. Afin que ceux qui étaient loin, les gens des nations, comme ceux qui sont proches, les Juifs, puissent ensemble s'approcher de Dieu. Mais je voudrais vous dire que le projet de Dieu va encore plus loin que simplement réunir en un seul peuple ceux qui autrefois étaient séparés. Il ne désire pas que son Église soit simplement le rassemblement des Juifs et des non-Juifs qui croient. Dieu va plus loin. Dieu veut que son Église soit le rassemblement d'un peuple nouveau et parfaitement uni au-delà de ce qu'ils étaient auparavant. Il veut que son Église soit le rassemblement d'une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité créée en Jésus. Éphésiens 2,15, Christ crée en lui-même, avec les deux, avec le juif et le non-juif, un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau. Et je finis par ce verset avant d'aller vers ma conclusion. Colossiens 3,11. Il n'y a ici, Paul pense à l'Église, il n'y a ici dans l'Église, ni grec, Goïm, gens des nations, ni juifs, ni circoncis, ni barbares, ni scythes, ni esclaves, ni libres, mais Christ est tout et il est en tous. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, Dieu, quand il regarde son Église, ne regarde pas s'ils sont juifs ou non juifs, il ne voit que des hommes et des femmes nouveaux. En Jésus-Christ. Et ça, c'est la gloire de notre Seigneur. Alors, en conclusion, oui, je rajoute quand même ce point, nous n'oublierons jamais, malgré tout, que cette nouvelle humanité en Jésus tire sa sève de la promesse de Dieu faite à Israël. En conclusion, Israël demeure le choix de Dieu. Et comme Paul l'écrit dans Romains chapitre 3, verset 3, « Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru ?» Leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ? Loin de là. Et l'élection de Dieu demeure. Mais c'est une élection accompagnée de dons, accompagnée aussi d'une exigence d'exclusivité. C'est une élection qui n'est pas une fin en soi, mais une vocation, une mission. Israël devait devenir un canal de bénédiction pour toutes les autres nations. Dieu l'avait dit dès le départ à Abraham. Et ce qu'Israël, en tant que peuple, n'a pas pu mener à bien, Dieu l'a malgré tout réalisé, comme il l'avait annoncé, à travers celui qu'il a suscité à Abraham, c'est-à-dire Jésus. Et je vais vous dire, Jésus, à la croix, c'est Israël. Il en reste un, fidèle, mais c'est suffisant. Jésus, c'est l'accomplissement des prophéties et des promesses données à Abraham. Les hommes n'ont pas pu l'accomplir, la porter jusqu'au bout, mais Jésus l'a fait. Et en Jésus, les nations exclues jusque-là des alliances et des promesses trouvent accès au salut et à Dieu. En Jésus, tous ceux qui croient, juifs et non-juifs, sont réunis pour former un seul peuple, mais aussi une nouvelle humanité. Quant à l'Israël, rejeté partiellement et temporairement pour cause d'incrédulité, oui, il est séparé de Dieu pour un temps, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, mais à aucun moment, Israël n'est oublié de Dieu. Et tout au long de son histoire, il fut comme préservé par Dieu de la méchanceté des hommes. Et ne l'oublions pas, particulièrement de ce qui se disait de l'Église. Et puis, depuis 100 ans, et un peu plus, nous pouvons dire que Dieu a repris activement ses relations avec Israël, en vue du dernier acte qui va bientôt s'accomplir. Il y a 100 ans, le sionisme se levait, l'hébreu, langue morte, revivez. Et le Seigneur accomplira ses paroles. Une partie d'Israël a rejeté le Messie, continue de le faire, et c'est très triste. Mais nous n'oublierons jamais que nous tirons notre sève de l'élection d'Israël. Nous n'oublierons jamais que notre Messie est juif. Nous n'oublierons jamais que la Bible est un livre juif. Même pour ce qu'il s'agit de Luc, puisque Luc dit qu'il tient ses écrits des témoignages de ceux qui ont vu Jésus, qui étaient-ils des juifs. Et nous n'oublierons jamais que l'héritage de la foi juive est notre enrichissement. Alors ne cessons point d'aimer l'Israël biblique. Mais nous ne cessons point non plus d'aimer les juifs. Ils sont le peuple aimé de Dieu. Ne cessons point de prier pour l'État d'Israël et les Israéliens et les juifs d'aujourd'hui. Cet État est un État qui cherche la paix, certainement, mais qui vit au milieu de la violence. Et à cause de ça, peut parfois se prendre les pieds aussi dans le tapis, même s'ils ne le veulent pas. Mais Dieu est fidèle envers Israël. Dieu est fidèle. Et il le demeure. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est Balaam qui disait qu'il y a un peuple qui est différent des autres. Un peuple à part. Et Balaam pouvait contempler les tentes de ce peuple dans la vallée. Et il voyait de ce peuple un astre monter. Et Seigneur, nous savons que ce peuple porte un nom. C'est le nom d'Israël. Et contre ce peuple, Seigneur, pas même la divination ne peut quelque chose. Alors encore moins la violence et la haine. Parce que ce peuple a un défenseur. Et il s'appelle Dieu lui-même. Seigneur, apprends-nous à conserver l'amour d'Israël. Parce que nous ne pouvons pas oublier où sont nos racines. Nous ne pouvons pas oublier la nature de nos racines. Elles sont le fruit de l'élection de Dieu et de la foi de cet homme venu de Ur en Chaldée qui s'appelait Abraham. Seigneur, nous prions pour Israël. Nous prions pour les Juifs, nous prions pour les non-Juifs. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent. Nous savons que des temps difficiles sont devant Israël et devant les Juifs qui sont autour de nous. Et Seigneur, notre cœur pleure. Il pleure pour le Juif, il pleure pour le chrétien persécuté, même si parfois il n'est qu'un chrétien de nom. Il pleure pour le musulman. Et nous savons, Seigneur, que la paix ne se jouera ni par les armes, ni par les traités, mais par la venue du Messie. Seigneur, que ta bénédiction demeure encore sur Israël et qu'elle demeure sur l'Église qui a part à la sève. Amen. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Bonne journée et à la semaine prochaine avec M. Boulagnon.